Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trizac. L'original.
Radio.
Du Trizac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mardi 6 juin. Je viens de voir ce que Richard a reçu. Est-ce qu'il en a parlé en onde? Est-ce qu'il a parlé des dessins qu'il a reçus? Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, je suis jaloux. Moi, j'ai rien. What do I get? Nothing. Moi, j'ai jamais de dessin comme ça pour me mettre en valeur. Il ressemble à Léo Rivet, sacrément. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de l'air, Léo Rivet, allez voir sur Internet. C'était le sidekick de Claude Blanchard dans les années 70. Et 60, Richard, il y a eu des beaux dessins. Joseph Facal puis Mathieu Bocoté. Évidemment, moi, je suis jamais là. Moi, j'ai jamais rien. Moi, j'en ai pas de dessins. J'en ai reçu, hein. J'ai reçu plein d'affaires déjà, mais là, c'est plus tranquille. Montre-moi ça. C'était... Ah, c'est beau. Ah oui, regarde ça, c'est beau. Mais approche-le de la caméra, voir, les gens vont se mettre à pleurer. Ça, c'est Richard. Mais non, c'est ça. Moi, on m'aime pas assez. Richard a vraiment des... Non, Florent, je t'en prie, enlève-moi ça du studio, sacrément. Déjà, faut que je passe 2h30 ici. Abuse pas. Bon, on va parler à Gilles Julien vers midi et on va aussi faire la mise au point de ce qui se passe en Haïti vers 13h. Mais tout d'abord, Benoît Barbeau est avec nous, virologue et prof au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, ce qu'on appelle l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Bon, êtes-vous de bonne main, vous?
Pourquoi pas?
Non, ben, vous me répondez, c'est comme si vous étiez en enterrement. Le monde.
Désolé.
Là, dites-moi, la pandémie est terminée, là.
Bon, ben, je crois que ça dépend à qui vous parlez. Il y a encore des infections, puis en ce moment, évidemment, le virus circule encore. Je crois qu'on va transiter éventuellement vers une situation plus calme. Encore là, on est quand même très bon, on contrôle très bien la situation, mais je crois que l'OMS définit la situation encore comme étant une pandémie. Peu importe vraiment comment qu'on la voit en ce moment là.
Ah ouais.
Ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse vraiment confirmer qu'on est dans une version plus endémique, puis que le virus a vraiment plus, en tout cas, semble évoluer plus vers un virus typique respiratoire.
Ok. Mais, Avant de
donc,
parler.
Le terme pandémie ne doit pas être enlevé nécessairement en ce moment de la discussion autour de la COVID-19, bien qu'on le contrôle quand même relativement.
OK, ben votre réponse m'étonne, M. Barbeau. Puis avant de parler du certificat numérique, qu'est-ce que la pandémie a enseigné aux virologues du monde, à des gens comme vous?
Ben, ce que ça l'a démontré, en effet, c'est que les virus respiratoires, évidemment, sont toujours à prendre au sérieux. Donc, là, évidemment, c'est des virus qui ont une facilité quand même à se transmettre, ben, surtout en contact avec les humains. Puis tous les efforts qu'on fournit, évidemment, qu'on peut fournir pour limiter cette transmission, ce contact avec les humains puis les animaux, va nous aider justement à limiter la possibilité de nouvelles pandémies. Ce que ça nous dit également, c'est qu'évidemment, on n'est pas et c'est loin, on ne peut pas exclure que dans 10 ou 20 prochaines années, il n'y aura pas une nouvelle pandémie. Puis il faut vraiment être à l'affût de ces situations, puis donc d'essayer d'une part, comme j'ai mentionné, éviter ces transmissions, mais également pouvoir justement s'assurer que lorsqu'une future pandémie va nous frapper, qu'on soit mieux préparé, qu'on ait en effet toutes les infrastructures nécessaires pour évidemment bien équiper, bien fournir, bien positionner les services de soins de santé. Et aussi utiliser tout ce qu'on a acquis en termes de connaissances, que ce soit au niveau des vaccins, au niveau des traitements, pour aussi rapidement nous préparer justement et arriver justement avec des solutions rapides face à un nouvel agent infectieux qui serait en cause au niveau de la pandémie.
Dans le fond, pas faire la même erreur qu'on a fait, c'était quoi, en 2002-2003, avec le H1N1, où on a été vraiment chanceux?
Ben, d'une certaine façon, c'est certain que ça soit le virus influenza, le H1N1, qui a finalement n'a pas été le virus auquel on avait une certaine peur. Là. C'est certain que ça rappelait exactement la pandémie, la grippe espagnole. Ça en soi, on avait la même étiquette. On craignait vraiment que ce virus-là serait aussi dangereux que celui de la grippe espagnole. Et on s'est aperçu finalement qu'on avait peut-être été affolé un peu trop. Mais n'empêche qu'on était plus ou moins bien préparé. Et je crois qu'encore là, par rapport à la pandémie actuelle, au tout début de la pandémie, en 2020, on n'avait aucunement la préparation nécessaire à être prêt, justement, face à une telle pandémie. Il faut comprendre, en effet, qu'elle a eu de larges conséquences au niveau social et économique. Alors, pour cette raison, je crois que j'espère qu'on a appris, puis qu'on va être encore mieux équipé, mieux préparé lorsqu'un nouvel agent infectieux, que ce soit n'importe quel virus ou autre agent infectieux, commence à se transmettre activement dans la population humaine.
Alors, hier, je disais, Benoît Barbeau, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, va utiliser le certificat COVID numérique de l'Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondiale. Ça va crier au meurtre. Là, on va avoir quoi? Des micropuces dans notre tête? Comment ça va se passer?
Ben écoutez, je suis pas vraiment expert dans le système, mais c'est un système quand même qui a été utilisé au niveau de l'Union européenne. Ça a eu un très grand succès. Et donc, ça fait en sorte que vous promenez, votre information est disponible sur votre cellulaire ou d'une certaine façon, puis vous avez l'information qui indique justement quel est votre état de vaccination, si vous avez fait des tests, dépendamment de quels sont les tests que vous avez réalisés, cette fois, par exemple, pour le virus de la COVID-19. Alors, ça a été énormément utilisé durant la pandémie par l'Union européenne. Ça l'a permis justement de faire en sorte qu'il y ait un suivi. Donc, lorsqu'une personne décide de rentrer dans un pays, que ce soit pour affaires ou pour travail, bien, au moins, il y a cette information-là qui est disponible. Et puis, c'est que ça donne une certaine flexibilité, mais aussi une certaine normalisation de l'information. Et puis, ce programme-là, ce certificat-là, en effet, ce mois-ci, allait être arrêté, allait se terminer. Et puis, donc, il y a eu évidemment beaucoup de discussions avec l'OMS. L'OMS a décidé de prendre en charge, justement, ce certificat, ce type de certificat numérique, et cette fois-ci, vraiment l'étendre à l'échelle mondiale. Et c'est vraiment, pas un devoir, mais plutôt un désir de la part de l'OMS de pouvoir arriver justement avec des informations numériques qui pourraient, évidemment, là on parle beaucoup de sécurité, haute sécurité qui est nécessaire, bien sûr, pour évidemment s'assurer que ces informations-là ne soient pas dispersées. Mais donc, utiliser les versions numériques pour faire en sorte que, justement, au niveau mondial, on peut avoir plus facilement l'utilisation de ces informations faciles et puis permettre justement à des gens de voyager sans trop de difficultés. Et donc, on peut se rappeler en effet qu'au niveau de la pandémie, ça a été quand même quelque chose de très ardu, surtout plus particulièrement au tout début.
OK, mais vu que ça vient de l'Union européenne, là, moi, vous savez, là, j'ai toujours des soupçons envers tout le monde, M. Barbeau. Là, je me méfie tout le temps. Pensez-vous que ça a un lien avec la vague migratoire que l'Europe a connue, là, ou même le sud des États-Unis? Là, on veut être capable de suivre les mouvements de certains groupes là, qui changent de population.
Moi, je ne peux pas vraiment vous dire exactement.
Ben, ça sert à ça un peu, là. On veut savoir où sont les gens, puis quel est leur état de santé.
Mais encore là, il faut se rappeler quand même que l'OMS n'aura aucunement accès à ces informations. Alors ça, en soi, bien que l'information va être disponible, l'OMS, en effet, ne peut avoir accès. C'est certain que c'est quand même des informations qui vont être rendues, qui vont être accumulées. Et comme je dis, de toute façon, l'objectif premier est en effet de s'assurer que dans le contexte, justement, plus particulièrement d'une pandémie ou lorsque vraiment des situations plus complexes, eh bien, on peut au moins s'assurer que les gens peuvent circuler librement et en effet avoir l'information nécessaire pour qu'ils peuvent démontrer justement qu'ils sont vaccinés ou ainsi de suite. Mais autrement, c'est certain qu'on peut. Il y a toujours des questionnements à savoir comment ces informations-là pourraient être utilisées. Mais en soi, comme je le rappelle, c'est quand même, en fait, tout simplement une extension de l'utilisation du certificat qui a été utilisé en Europe. pour évidemment une version plus mondiale. Et encore là, je crois que c'est plus permettre encore plus d'agilité, plus de flexibilité au déplacement des gens. Donc, vous savez, au début de la pandémie, on avait beaucoup de problèmes à savoir quels étaient les vaccins qui étaient permis, comment que donc les personnes qui étaient vaccinées selon un certain vaccin ne pouvaient pas se présenter à un pays parce qu'en effet, c'était pas le bon vaccin. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mélange, beaucoup de confusion à savoir qu'est-ce qui était possible justement pour des personnes pour les personnes de voyager en fonction justement de leur état vaccinal. Je crois que l'objectif, l'OMS, et je crois que c'est vraiment, on pourrait dire, un désir qu'ils ont, c'est au moins de normaliser et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande flexibilité pour que les gens puissent se déplacer et puissent se déplacer le plus rapidement possible lorsqu'on est dans une pandémie. Mais comme vous avez mentionné, il y a quand même, il faut avoir un très haut niveau de sécurité. On veut éviter que justement c'est pour suivre les gens, s'assurer justement que d'avoir d'autres raisons. Mais ça, je peux pas vraiment affirmer qu'est-ce qu'il y en a. Mais l'objectif en tant que tel, il est vraiment médical. Puis vraiment, c'est pour s'assurer que les au niveau sanitaire, on n'a pas les complications, surtout lors d'une pandémie.
Bon, je sais que vous avez pris la parole là, sur les zombies, les virus zombies, Benoît Barbeau, là, mais l'OMS, là, toujours dans le cas de ce certificat numérique là, qu'on veut répandre à travers la planète, basé sur l'exemple qu'on a suivi à l'Union européenne, l'OMS dit vouloir mieux se préparer à la prochaine épidémie. C'est une question de temps?
Probablement, oui. Écoutez, nous, entre celle qui était la pandémie majeure qu'on a subie, la dernière, c'était en 1918 avec la grippe espagnole. Il y a eu d'autres cas d'épidémie qui ont eu lieu justement par des coronavirus et des virus respiratoires. Mais c'est certainement ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a, faut dire quand même qu'il y a eu trois coronavirus vraiment qui ont eu un impact important au niveau de la santé humaine. Évidemment, le virus de la COVID-19, celui était le majeur, mais depuis l'année 2000, comme je l'ai dit, il y a eu le SARS-CoV-1, le MERS-CoV, et là, le SARS-CoV-2 pour la COVID-19. Alors, tout ça fait en sorte qu'on risque d'arriver avec une nouvelle pandémie, que ce soit à cause des changements climatiques, que ce soit aussi avec les contacts accrus entre les humains et les espèces animales. C'est certain que cette situation va revenir. Et à quel niveau, à quel moment, ça, on ne peut pas le prévoir. Mais vous savez, c'est la nature même des virus. Je veux dire, les virus peuvent en effet être plus présents, sont plus présents dans une population animale. Mais l'objectif de ces virus-là, c'est tout simplement de se transmettre au maximum, maximalement. Que ça soit sauté dans une autre espèce, comme c'est le cas évidemment pour la majorité des virus qui ont infecté l'humain, eh bien, c'est tout à fait à son avantage. Et puis, sa capacité de diversifier, de changer, bien fait en sorte qu'il va s'adapter éventuellement et avoir la bonne combinaison pour sauter, faire un saut d'espèce, puis entre autres infecter l'humain. Alors, pour cette raison, c'est certain qu'on n'est pas la dernière pandémie qu'on va vivre. C'est-à-dire que l'espèce humaine vivra. Mais au contraire, avec toutes les modifications qu'on a au niveau à l'échelle planétaire, il y a des bonnes chances que ça doit arriver bien avant cela, pas les prochaines 100 ans.
Bon, c'est important d'en parler, M. Barbeau. Tu sais, l'idée, c'est de calmer la colère des camionneurs puis des anti-vax, des anti-mesures sanitaires. Si on en parle de temps en temps, peut-être qu'ils vont se faire à l'idée puis ils vont pas choquer autant qu'ils l'ont fait.
Oui, et c'est certain. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que, vous savez, une pandémie, on peut être préparé comme on peut l'être. On peut maximiser nos efforts pour faire en sorte qu'on est mieux préparé. Mais une pandémie, on peut jamais être pleinement préparé. Celle-ci, en effet, comme n'importe quelle pandémie, on pouvait pas la prévoir. Puis c'est sûr qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu quand même il fallait que les gouvernements, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit à l'échelle internationale, bouge rapidement avec les connaissances scientifiques qui étaient acquises à une vitesse grand V quand même, et puis donc se positionner, que ce soit par rapport au type de protection qu'on devait utiliser, que ce soit par rapport à quel type de vaccin qu'on pouvait utiliser, et ainsi de suite, à qui, et ainsi de suite. Alors, on a quand même eu à prendre des décisions très rapidement. C'est sûr que ça n'a pas fait l'affaire à bien des gens, mais n'empêche qu'on doit agir justement dans la meilleure conscience possible et s'assurer d'éviter que ce virus-là se transmette proactivement. Et en ce moment, on a quand même, suite à 2022, qui a été une année extrême, quand même assez difficile, on a quand même un contrôle du virus. Puis c'est avec ces efforts-là qui a été fourni par les scientifiques par même les compagnies pharmaceutiques, par les gouvernements, qu'on est dans une situation où on a quand même un contrôle du virus, mais qui pourrait aussi mieux nous équiper, mieux nous positionner, avoir une stratégie bien mieux pensée pour l'arrivée d'un nouvel agent infectieux, que ce soit un virus, et faire en sorte qu'on va pouvoir justement mieux agir et aussi arriver avec des interventions qui vont être beaucoup plus appropriées. Mais avec la pandémie qu'on a subie, c'est certain qu'on a vu quelles étaient nos failles, quels étaient les endroits où on a moins bien été efficace. Mm-hmm. On ne peut qu'espérer qu'on apprendra de nos erreurs pour être mieux préparé.
Eh boy, souhaitons-le. Hein? Benoît Barbeau, virologue et prof de l'UQAM, un gros merci. Bon été à vous. Hein?
À vous ici, au revoir.
Salut.